Il est 7h04 minutes. Bonjour, Luc.
Bonjour, Louis.
Alors, parlons de l'identité du conférencier invité au congrès de la commission de la relève de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. De qui s'agit-il?
Ben oui, hein, parce que tu sais que l'été, c'est la saison des congrès, oui, des ailes jeunesse des partis politiques. Puis là, ben, les jeunes caquistes, eux autres, vont se réunir en congrès les 17 et 18 août à l'Université Bishops à Sherbrooke. Alors, tu vois, un autre événement politique majeur dans les cantons de l'Est. Oui, il faudra que tu lâches un petit peu la tribune de la presse à Québec, puis venez nous voir chez nous en Estrie.
Je vais être en vacances.
Ben, l'action.
Je
dois te confier que moi aussi. Alors, moi, on va suivre ça quand même avec intérêt. Mais ceci étant dit, parce que oui, je pense que ça va être intéressant du côté de l'Université Bishops. Le conférencier invité le samedi parce qu'ils vont avoir une conférence sur la liberté d'expression de 13h15 à 14h30 et ça sera animé par Mathieu Bock-Côté.
Ah ouais?
Ouais, c'est lui qui sera le conférencier pour les jeunes caquistes. Alors, ça risque évidemment de faire réagir, d'attirer un petit peu l'attention parce que tu sais que notre premier ministre François Legault a l'habitude de partager ses lectures sur Twitter et en fin de semaine, il a dit sur Twitter qu'il avait lu le dernier livre de Bock-Côté puis ça a suscité beaucoup de réactions positives, beaucoup de réactions négatives. Alors, on voit que c'est un personnage qui fait réagir. Alors, sa participation au congrès de l'aile jeunesse de la CAQ risque de faire réagir tout autant. Et là, les jeunes caquistes, eux autres, voulaient avoir quelqu'un pour parler de la liberté d'expression parce qu'ils vont débattre d'une importante résolution sur ce sujet-là. En fait, de manière plus précise, ils vont débattre d'une résolution qui va porter sur la liberté d'expression sur les campus universitaires parce que ce que les jeunes caquistes disent, c'est qu'il y a eu des cas où la liberté d'expression a été brimée dans les établissements d'enseignement supérieur au nom du politically correct. Alors là, les jeunes caquistes qui nous disent un petit peu dans cette résolution-là, c'est que oui, le Québec est une société pluraliste, alors ça peut faire en sorte que certaines expressions, certains propos peuvent déranger, causer des désaccords. Mais pour eux, ce qu'ils répètent dans cette résolution-là, c'est que les dérives doivent être corrigées par davantage de liberté d'expression, qu'il ne faut pas empêcher des individus de s'exprimer librement. Alors, et puis, ils disent également que dans le fond, si on voulait un petit peu là, cadrer là, les propos qui sont politiquement corrects, qu'on peut accepter dans notre société, ben, ça peut dégénérer vers des décisions arbitraires reposant sur la loi du plus fort. Alors, c'est un petit peu ce qu'ils nous disent dans leur résolution. Puis eux, évidemment, ben, leur point de vue, c'est de dire, en conclusion de la résolution, que les établissements d'enseignement supérieur doivent demeurer des lieux de débat et qu'on doit y protéger la liberté d'expression. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec eux, là, moi, je pense que ça va être intéressant parce que oui, c'est un débat d'actualité. On en a souvent des cas, justement, de liberté d'expression ou de propos sont un peu un symbole de dérapage. On l'a vu la semaine dernière, entre autres. Alors, ça demeure un débat d'actualité.
Oui, mais il faut faire attention parce que la liberté d'expression, ça ne permet pas de dire n'importe quoi non plus. Là,
alors voilà, c'est pourquoi, justement, il faut voir comment ils vont cadrer le débat, quelle sera, évidemment, la teneur de la conférence, mais surtout comment le gouvernement va y donner suite. Hein, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans les congrès. Est-ce que le parti va avoir un écho auprès du gouvernement? Comment les ministres, comment le premier ministre va donner suite à ça? Ça risque d'être bien intéressant. Et en terminant sur ce sujet-là, Louis, je voulais te dire aussi que oui, il y a un conférencier, mais la conférence sera animée par un ancien candidat péquiste qui a été candidat à l'élection du 1er octobre dans Sherbrooke par Guillaume Rousseau. Alors, c'est lui qui va animer cet atelier-là. Évidemment, c'est sa première grande sortie publique depuis l'élection, mais on sait qu'il était passé à la CAQ parce qu'il a conseillé Simon Jolin-Barrette pour le projet de loi sur la laïcité. C'était lui qui était assis à côté de lui lors de la commission parlementaire. Ouais. Alors, ce sera sa première participation à un événement partisan de la CAQ.
Bon, alors on comprend qu'il avait déjà, lui, de toute façon, franchi le Rubicon, n'est-ce pas, comme on dit.
Absolument.
En fait. Ouais. Et les objectifs imposés aux députés libéraux fédéraux qui veulent se représenter, qu'est-ce que c'est, ces objectifs-là?
Ben, enfin, il y a un gros article dans le Journal de Montréal en fin de semaine où on nous dit que le parti impose aux députés sortants certaines conditions pour pouvoir se représenter. Ouais. Et puis, dans le Journal de Montréal, on parlait de pratiques même douteuses parce qu'on fixe des objectifs financiers aux députés qui veulent se représenter. On leur dit...
Et bien placé pour en parler des objectifs financiers, cher Luc.
Ben oui, parce qu'on a déjà passé par là. Hein?
Ouais.
Parce qu'il faut avoir les sous, justement, pour faire sa campagne électorale.
C'est combien, toi, ton objectif? Raconte-nous ça.
Ben moi, écoute, ce qu'on nous disait, c'était d'avoir les sommes pour faire notre élection, finalement.
Ouais.
Fait que quand tu le répartis un petit peu, puis il faut que tu fasses vivre ton association, fait que, ça tourne autour à peu près de 10 000 $ par année. Mais là, ce qui est demandé aux députés libéraux fédéraux, c'est d'avoir au minimum 51 000. En fait, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir 50 % du maximum qu'ils peuvent dépenser en vertu de la loi pendant la campagne électorale. Parce que, bon, le reste, ça va venir par le remboursement des dépenses électorales.
Ouais.
Alors, là, ce qu'on leur dit, c'est ramasser ces sous-là, puis on leur fixe comme objectif un montant précis en fonction de leur comté. Puis si vous ne l'atteignez pas, ben vous ne pourrez pas vous représenter. Mais je pense qu'il faut mettre aussi les choses en perspective, parce que dans l'article, on faisait beaucoup de parallèles avec les ministres à 100 000 de Jean Charest. Mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, là. Les députés, ce qu'ils leur ont demandé, c'est pas de ramasser des sous pour le parti, c'est pour eux, c'est pour leur propre réélection. Alors, il faut également là, qu'ils puissent avoir les moyens de faire campagne. Donc, c'est quand même pas la mer à boire ce qu'il est demandé. Puis moi, je peux te dire, là, si un député n'est pas capable de ramasser ça, 51 000, par exemple, là, sur un mandat, c'est peut-être parce qu'il n'est pas assez connecté avec son milieu non plus.
Surtout que les règles de financement sont pas pareilles du tout au fédéral
ben qu'au provincial. Ben oui, nous autres à Québec, c'était 100 piastres par personne par année, alors qu'au fédéral, c'est beaucoup plus élevé. Là. C'est sûr que le danger là-dedans, ben, c'est de dire, ben, si tu n'atteins pas ton objectif, tu ne peux pas te représenter. Oui, ça met de la pression un petit peu, mais en même temps, là, je pense que c'est un minimum qu'ils doivent ramasser. Là, c'est pour leur propre élection, pour qu'ils puissent sauver leur propre job. Là. Je pense qu'il faut le répéter. Puis les autres conditions, c'est qu'on leur dit qu'il faut qu'ils aient ramassé 5000 points. Et comment ils peuvent ramasser ces points-là? Ben, c'est en cognant aux portes, puis en faisant des téléphones, donc en parlant au monde un petit peu, puis cogner une porte, ça leur donne 1,5 point, puis faire du téléphone, ça leur donne un point. Alors, pas nécessairement négatif non plus de leur demander d'aller à la rencontre du monde, mais en même temps, sont obligés de le faire. Alors, tout ça, moi, je pense que ça vise à assurer une vitalité démocratique au PLC, parce que traditionnellement, c'était pas un parti qui avait une tradition très grassroots, là, je peux me permettre l'anglicisme, mais et ça force aussi les députés qui sont dans des comtés sûrs, eux autres aussi, à travailler. Fait que, bref, je pense qu'il faut mettre un petit peu les choses en perspective. Je pense que c'est un minimum ce qui est demandé aux députés. On s'attend à ça d'eux, mais c'est sûr que quand tu es obligé d'en faire des objectifs, ben ça entraîne parfois des perceptions négatives, puis c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. Alors, il faut faire attention à ça, mais en même temps, faisons attention aux conclusions qu'on peut tirer d'un tel article.
Monsieur Fortin, merci.
À demain!